France Inter.
J'en manque de chlorophylle.
CO2, mon amour.
Moi, quand on venait ici, c'était mes vacances, ils étaient là, mes congés payés.
Denis Chessou.
Ça fait 25 ans, ouais, j'ai pas vu de campagne. Je suis obligé d'aller au Castorama, rayon jardinage, pour voir un petit peu de verdure. Mais ce qui me manque le plus, moi, c'est la fraîcheur. J'étouffe.
Sur France Inter.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans ce haut de mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Et depuis ici, Dromardèche, que je remercie de tout cœur de m'héberger sous le soleil, à la technique Sarah Kinens. Mathias Alléon est à Paris. Notre collaboratrice, c'est Camille Blanès. Et cette semaine, c'est Maria Pasquet qui réalise l'émission. Et qui commence par une petite rumeur. Donc d'abord, merci pour votre fidélité. Hein. Vous êtes plus +1,100,000 à nous écouter. Bon, d'accord, côté nature, ça ne s'arrange pas. Mais on se tient chaud, on ne lâche rien. Après 2 semaines avec nos amis chanteurs d'oiseaux, eh ben tenez, un mini-hommage aux Piaf, mais qui, eux, ne voyaient pas la lumière. Ils furent, au XIXe siècle, les ancêtres des lanceurs d'alerte. Comment se protéger d'un coup de grisou dans les mines? Eh ben vous le savez, on descendait un canari, un pinchon, comme on dit en ch'ti, ou un serin pour tenter de l'être. Car nos passereaux sont plus sensibles aux émanations de carbone que nous. S'ils ne chantaient plus, tournaient de l'œil ou se hérissaient, eh ben les gueules noires remontaient rapidement sauver leur vie. Et aujourd'hui, d'autres lanceurs d'alerte dans le monde sont menacés car on n'aime pas les messagers, on les tue ou bien on les affaiblit. La politique américaine anti-science de licenciement massif est très efficace. Les données mondiales sur le réchauffement climatique et la météo ont chuté de 10% depuis le mois de mars, nous dit Reporter, alors qu'elles sont plus nécessaires que jamais, sauf évidemment si vous êtes abonné à climato-sceptique, la terre est plate.trump. L'université d'Harvard, elle, résiste malgré 2,2 milliards de dollars qui sont gelés. Elle ne renonce pas à son indépendance. Alors chez nous, dans un registre qui est bien plus modeste, mais radical, le président du conseil départemental du Rhône a sucré 80 000 euros de subventions à FNE, à l'ALPO et Arthropologia, destinés donc à des projets d'amélioration de connaissances et de protection de la nature. Quel est leur crime? Eh bien, ils ont adressé un courrier questionnant sur le bien fondé d'un projet de port fluvial à Anse qui menace une zone humide de 30 hectares. Et il n'y avait vraiment rien de virulent dans le courrier. Juste du questionnement qui correspond à un devoir qui est d'ailleurs inscrit dans la charte de l'environnement de notre Constitution. Tu ne selles pas ton cheval avec nous, camarade? Eh bien, je te coupe les vivres. Bâillonner les associations qui empêchent d'aménager et détruire en rond est à présent une tendance installée dans notre pays. Alors évidemment que l'environnement, hein, c'est comment c'est bien faire. Bon, et le visionnaire président LR Christophe Guillotot a glissé ah, « Je ne suis pas prêt à ce que mes enfants mangent des graines et fassent du vélo tous les jours. » Point. La décision est tombée, c'est la démocratie, avec une abstention, celle de Frédéric Pronchery, maire de Belleville, qui lui est un convaincu des bienfaits de la biodiversité. En fait, le dialogue n'est pas rompu et de chaque côté, il s'agit de renforcer une culture commune. Et pendant ce temps, eh ben Avril, qu'est-ce qu'il a fait? Ben il a repris sa luge. Bon, d'accord, Avril nous refait, vous savez, le coup du charcutier. Il y en a un peu plus, il nous reste un peu de froid, allez, je vous le laisse. On croyait le printemps arrivé, mais faut réviser vos proverbes, pas d'un fil que l'on vous dit. Retour de la neige, la goutte au nez au coin du feu, a maté dans la cour les oiseaux frigorifiés qui picorent les miettes du goûter. Bon, tous ne sont pas arrivés, hein, d'ailleurs. Les hirondelles sont loin d'avoir fait le plein. Et si toute cette bêtise mondiale humaine affichée vous oppresse un peu trop, eh bien choisissez la méthode suédoise. Ah, qu'est-ce donc? Eh bien, vous suivez sur l'écran la migration calme et pépère des élans à travers le pays. Mais pour autant, fait-on mieux et sans technologie que s'asseoir à hauteur, vous savez, à guetter toutes les formes de vie? C'est aussi cela, se relier à la nature. Et dans nos épanouissantes sociétés qui ne pensent qu'à la performance, à éclater le fond des mers, des sols, qui fabriquent de l'éco-anxiété, qui zappent le sens de la vie, je reprends mon souffle. Bah, d'ailleurs, chez nous, l'éco-anxiété est interdite le dimanche. Hein. Bah oui. On ne va pas bouleverser la marche destructrice actuelle, mais on a du positif agricole à vous offrir. Donc, direction la ferme du Grand Laval, on va ré-ensauvager les fermes.
Je me déplace tout doucement et ça m'arrange comme une limace. Sans trop forcer, je me balance de gauche à droite au ralenti. Le monde est si joli au ralenti. J'ai tout le temps d'y voir du jour au crépuscule tous ces royaumes minuscules qui se façonnent sous nos yeux. Que tous ces gens qui courent sans caresser le jour ont oublié. Plus le temps passe et plus j'apaise ma cadence. Le ciel m'embrasse et je me noie dans ses nuances. Un oiseau passe. Je crois que le temps que j'arrive à faire un pas de plus, il aura déjà fait son nid de branchages et de mousse. Mars a brillé, on passe et j'ai posé 6 fois le pied. Mais j'ai vu tant de choses du jour au crépuscule dans ces royaumes minuscules qui se façonnent sous nos yeux. Que tous ces gens qui courent sans caresser le jour ont oublié. À force de ralentir le pas, des araignées ont tissé tout autour de moi. Mais ça me va, je crois. Je me laisse guider de l'hiver à l'été au gré des choses à regarder. J'irai jusqu'au bout de ma vie sans pas de trop au ralenti. Les saisons sont si belles du jour au crépuscule dans ces royaumes minuscules qui se façonnent sous nos yeux. Que tous ces gens qui courent sans caresser le jour ont oublié.
Voyou, c'était les royaumes minuscules, mais il nous le disait, hein, voyou, des gens qui courent sans caresser le jour. Autrement dit, donc, il nous incite à prendre notre temps. C'est ce que nous faisons dans cette émission le dimanche, tranquillement, avec de la nature, et donc direction la Drôme et ses faiseurs de nature.
En vrai, moi, j'avais des grands-parents qui m'ont sensibilisé très fortement à ça, et j'ai toujours eu ça dans la tête, en fait. J'ai toujours eu des oiseaux dans la tête. Et ça, ça a été mon point de départ. Quand j'ai repris la ferme, j'arrivais pas à me sortir de cette idée. C'était au moment en plus où les oiseaux, le muséum nous annonçait que les oiseaux disparaissent dans les zones agricoles. On découvrait ça, nous, en tant qu'ornithos. Et là, on s'est dit, mais sur notre ferme, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc ça a été vraiment le point de départ. Et c'est après, petit à petit, qu'on a compris que la paysannerie permettait d'obtenir ça. Et que pour faire une paysannerie qui soit cohérente, eh bien en fait, la vente directe, les espèces diversifiées, cultivées, l'autonomie alimentaire, etc., ça faisait partie de l'équation. Mais on est parti, nous, de l'environnement, et on est parti du déclin des oiseaux pour se motiver dans ce dossier-là.
Un fabricant de nature, Sébastien Blache, donc, est un paysan ornithologue qui rée en sauvage son lieu de production. Alors Sébastien et sa compagne Elsa Gartner ont repris en 2006 la ferme de Grand Laval à Montélier, dans la plaine du Vercors. On est donc dans la Drôme, à une douzaine de kilomètres de Valence. Au milieu d'une marée productiviste, ce petit village gaulois résiste. L'objectif ? Être viable économiquement en permettant aux vivants de s'épanouir, être autonome, être bio, ne pas s'empoisonner ni la nature, ni évidemment ses clients. Alors ce paysan naturaliste a longtemps été chargé de mission à la LPO dans la Drôme. Il veut réensauvager les 50 hectares de son exploitation et autrement dit, la nature dirigée, bien sûr, est son allié et réciproquement. Les équilibres se sont faits au bout de quelques années avec de l'observation, de l'agronomie, des connaissances scientifiques. Le vivant, d'ailleurs, qui est démultiplié, c'est la conséquence de son système agricole. Son outil tourne aujourd'hui, on va dire naturellement. Mais évidemment, il faut toujours avoir le regard dessus. Alors, on n'est absolument pas dans la libre évolution, hein, c'est pas du tout ce choix-là, mais dans le choix de bonnes actions qui vont réactiver les dynamiques d'autonomie et du vivant. Alors, vous avez donc les brebis, hein, qui sont protégées aussi par les chiens, qui d'ailleurs sont aussi gentils avec l'humain qu'impitoyables avec le loup, et qui est la clé de voûte de son exploitation, parce qu'elles désherbent, elles nourrissent les sols. Intégrer la vie sauvage dans son exploitation agricole, c'est une des définitions du paysan naturaliste. Et donc, ils ont réussi à remettre en marche donc, les sols, une nature qui avait été anéantie par des années de produits chimiques. On va découvrir donc cet homme qui a le goût de l'avenir et de la nature. Et aujourd'hui, le Muséum National d'Histoire Naturelle hein, fait des inventaires, il y a un suivi scientifique de la ferme. On écoutera aussi Maxime Zouka, qui est écologue et coordinateur scientifique de l'association Réensauvager la ferme. Alors Sébastien Blache, exploitant agricole ou bien paysan ?
Bah ouais, on parle de paysannerie là en fait. Hein. Je me considère comme paysan, oui. Paysan naturaliste. Un paysan, c'est quelqu'un qui prend soin de ses terres, qui est attentif à tous ses enjeux, à avoir quelque chose de local, de cohérent, d'autonomie sur les cultures entre elles, sur la fertilité, sur la protection des cultures, mais aussi sur les marchés qu'on essaye de développer pour vendre nos produits, et puis bien évidemment, bah, tout ça en s'appuyant sur notre environnement.
Alors Elsa Gartner, vous qui êtes aussi donc ingénieur écologue, d'abord, il a fallu presque reconvertir toutes ces terres qui étaient quand même gentiment massacrées par de la chimie, hein, diverses et variées, et puis après vous avez observé donc un retour de la nature.
Alors dans les 10 premières années où Sébastien s'est installé, c'était pas forcément flagrant, je pense, visuellement, le changement. Mais là, les 10 dernières années, la végétation a tellement poussé qu'il y a vraiment, entre les espaces de monoculture qu'on observe dans la plaine de Valence et l'espace de la ferme ici, c'est le jour et la nuit, clairement, même au niveau auditif. Quand on écoute la vie dans l'espace agricole ici, versus l'espace agricole alentour, il est complètement différent.
Alors Maxime Zouka, moi j'ai une tourne vers vous, parce que justement on parle d'espace auditif aussi, ça change, c'est-à-dire qu'il y a des espèces sûrement qui sont revenues ici.
C'est même impressionnant la rapidité avec laquelle toutes les dynamiques du vivant se réactivent, avec laquelle des espèces qui avaient disparu, qui sont devenues rarissimes dans la plaine de Valence, reviennent. Aussi bien des petits crapauds que des oiseaux qui ailleurs déclinent en France et qui ici ont des abondances particulièrement impressionnantes.
Quand on parle de réensauvagement, comment on va définir ça ?
Eh bien, c'est vrai que c'est un terme qui peut faire peur, et notamment dans un contexte agricole. Et ici, on parle de réensauvagement paysan, et à travers notamment deux grands principes. Le premier, c'est au sein de la partie qui est cultivée ou pâturée, c'est compter sur les dynamiques du vivant, c'est simplement les visibiliser. On a régulièrement tendance à croire qu'il n'y a que l'humain tout seul qui fait pousser ses tournesols et que ça marche avec des produits externes et c'est tout. Mais c'est oublier qu'en fait, tout ça ne fonctionnerait pas sans toute la faune du sol, sans tous les insectes pollinisateurs, sans les chauves-souris et les mésanges et les hirondelles qui vont aussi réguler le surplus de certains parasites. Et donc, première chose, réensauvagement, c'est assumer la dynamique avec le sauvage. Et la deuxième modalité de réensauvagement paysan, c'est accepter de laisser un peu de sauvage, de libre évolution, entre guillemets, sur les marges. Donc les haies, pas forcément les tailler au cordeau chaque année, des bandes enherbées aussi abondantes que possible dans lesquelles les oiseaux vont pouvoir nicher au sol sans être moissonnés chaque mois de mai, chaque année. Des mares, voilà. C'est aussi créer des tas de bois, créer ces micro-espaces de sauvage qui empiètent un tout petit peu sur l'espace agricole, mais pas tant. Et alors là, c'est un arbitrage après des paysans, et c'est ce que Elsa et Seb font en continu. C'est bon, bah, jusqu'où on peut aller dans cette place qu'on laisse sauvage sur les bordures, sans que ça n'empiète sur le revenu aussi.
Sur l'activité économique. Alors ça vous y arrivez. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un petit peu à l'opposé du côté « il faut faire propre ».
Il faut qu'on accepte de vivre avec. Parce que c'est surtout ça, de vivre avec et que ça ne fasse plus peur. Là, on est face à une haie où ce qui domine, c'est la ronce.
Ah oui.
Bon, la ronce,
plante pionnière, hein, quand même, par excellence.
Ah ben, en fait, en écologie, ça veut dire future forêt. Donc c'est la plante qui protège les arbres qui sont en train de pousser au milieu, des cervidés, des lagomorphes et compagnie. C'est tellement négatif dans le monde agricole, la ronce, que nous, en fait, d'une certaine manière, en laissant Noé fonctionner et redevenir une petite forêt, on est obligé d'accepter que cette transition se fasse par la ronce. La forêt ne sait pas faire sinon.
C'est ça, on a des espaces où, dans tel espace, on a vraiment décidé de cultiver. Et donc là, on fait des actions en se disant « ma limite, elle est là ». Donc cet espace-là, je le cultive, je ne laisse pas la ronce passer ou d'autres espèces. Et puis, on a certaines zones où on est OK pour qu'il y ait... S'il y avait du castor, on serait OK pour qu'il y ait du castor à cet endroit-là. Si on est OK pour qu'il y ait de la ronce à cet endroit-là. C'est ça qui est difficile, en fait, c'est d'arriver à tracer la ligne, de placer le curseur au bon endroit, selon nous, de cet espace est pour la culture et cet espace est pour la vie sauvage, sachant que les deux sont quand même entremêlés. C'est ça qui est difficile, en fait, à comprendre. Ouais. Nous, on vit de notre production agricole, donc on ne va pas mettre en jeu notre production agricole. Voilà, on est tout le temps en train de jouer avec ce curseur-là.
Vous négociez avec le vivant, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et alors, donc, à l'intérieur de cette haie, Maxime Zouka, ça veut dire qu'il y a de très jolis insecticides qui s'appellent des oiseaux aussi.
Surtout en cette saison-là, on voit qu'il y a des murs qui sont à point et c'est un cadeau pour tous les oiseaux migrateurs qui s'arrêtent. Donc là, cette haie en particulier, en plus, elle barre la vallée du Rhône, parce que la femme du Grand Laval, on est dans la vallée du Rhône, qui est elle-même un axe de migration majeur des oiseaux. Et tous ces oiseaux qui se dirigent vers l'Afrique subsaharienne, ils ont besoin d'espaces aussi où s'arrêter et où reconstituer des réserves de graisse, c'est précieux. Et c'est ce qui manque de plus en plus dans plein d'espaces en France. Et on pense souvent au nombre d'oiseaux nicheurs, mais les haltes migratoires de ces oiseaux qui vont au Sahara, eh bien, leur qualité va déterminer le succès de leur migration. Donc là, typiquement, en cette saison, il y a des fauvettes partout, il y a des gommes-mouches. Et cette haie, sinon, abrite pendant la reproduction des fauvettes comme les hippolaïs, on a la fauvette grisette, on a les tourterelles des bois qui nichent dans cette haie. J'ai mis un piège photographique tout l'hiver, l'an dernier, dans cette haie, pour voir ce qui s'y passait. Et c'est là que se réfugient les lapins, les lièvres, les renards, la fouine. Ils ont besoin d'espace assez impénétrable pour les humains, et dans un roncier, ils sont tranquilles.
On continue à remonter la haie. La réussite de l'affaire, c'est justement c'est le maître mot de la nature, c'est-à-dire c'est la diversité. Et vous avez donc une quarantaine d'hectares, mais avec à peu près une trentaine de parcelles, mais qui vont être différentes avec combien d'espèces de céréales d'ailleurs ?
En tout, je crois qu'en grande culture, on cultive à peu près une dizaine de types de grandes cultures.
Ouais.
Enfin, les céréales en tant que telles, on cultive le blé, le triticale, l'avoine, l'orge, le maïs.
Et donc, il y en a toujours une qui peut sauver l'autre. Enfin, c'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément des maladies qui vont tomber sur vos céréales parce qu'il y en aura toujours d'autres qui peuvent prendre le relais, non ?
Ah ben ça, c'est chaque année, parce qu'on fait des céréales, mais on fait aussi des oléagineux, des protéagineux, du pois chiche, des lentilles, des haricots.
Ouais.
Chaque année, on rate une culture. Ça n'existe pas une année où toutes les cultures ont été absolument au top.
Ouais.
Mais chaque année, on réussit aussi exceptionnellement bien une culture. Donc en fait, l'un dans l'autre, on se débrouille, quoi.
Ouais. Maxime Zouka, l'association Réensauvager la ferme. Alors, je sais que c'est encore embryonnaire, mais quand même, vous faites des petits un peu partout en France.
On fait des petits dans le coin, mais c'est d'ailleurs une association. Il y a une autre association qu'Elsa coordonne avec d'autres paysannes et paysans de la région qui s'appelle les fermes paysannes et sauvages, qui s'inspire, pas uniquement, hein, chaque paysan, paysanne a sa manière de faire, mais qui essaye de laisser cette place aux sauvages et de travailler avec des naturalistes. Parce que ça, c'est extrêmement important qu'il y ait davantage d'échanges de savoir. Les naturalistes, les écologues ont souvent besoin de connaître un peu mieux le monde agricole. Ça éviterait pas mal de maladresses et d'incompréhension entre ces deux mondes. Donc c'est fondamental que les deux travaillent ensemble. Et évidemment, les paysans ont aussi tout à gagner à acquérir des savoirs naturalistes parce que ils travaillent avec le vivant tout le temps. Donc quand on est éleveur, on a besoin de connaître les graminées que mangent les bêtes. C'est aussi simple que ça.
Oui, c'est exactement ça en fait. C'est dans le monde paysan, on voit qu'il y a un besoin de savoir où on met le curseur entre je cultive et je laisse la place au vivant. Et moi qui ne suis pas naturaliste, quand je passe un outil et que Sébastien me dit « attention, il y a tel oiseau qui niche, sois vigilante », du coup, je sais que là, il faut que je fasse attention. Mais si on ne me l'avait pas pointé du doigt, s'il n'y avait pas un naturaliste qui m'avait dit « attention, à ce moment-là, ouvre les yeux pour regarder », je passerais l'outil sans savoir que j'ai détruit un nid ou que j'ai détruit un terrier ou je ne sais pas quoi.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est le côté « c'est possible ». Voilà. Ça, ça nous donne quand même de l'espoir.
Mais nous, on n'y a même pas cru, en fait, à vrai. Déjà, la production agricole, ça, ça a été quand même voilà, un challenge, et puis ça continue, parce qu'en fait, c'est un sacré métier. Hein. Ça apparaît pas, mais c'est très compliqué, c'est vraiment dur. On est vraiment mis à l'épreuve en permanence, il faut des compétences qui soient incroyables. Après, sur la biodiversité et sur le retour du vivant sur la ferme, moi, je caressais l'espoir que ce soit possible. Mais honnêtement, avec le travail de Maxime, des inventaires et tout ce qu'on découvre en permanence, encore, j'y crois pas. Voilà. On a beau avoir des preuves, ça me paraît tellement que j'essaie de m'auto-persuader que c'est que des anecdotes. Ouais. Mais en fait, à force de mettre des anecdotes à la queue leu-leu, il faut bien se rendre compte que non, il se passe vraiment des choses.
Ah, ben voilà. Une de vos quoi, dizaines ou quinzaines de mares que vous avez...
15 mares. Ouais.
15 mares que vous avez creusées, mises en mouvement. Alors, qu'est-ce qui a changé, là, d'ailleurs, maintenant que vous avez ces mares?
Ah ben là, ce qui a changé, c'est déjà... maintenant, quand on fait une petite balade ou qu'on est en tracteur, on est obligé de croiser une mare.
Ouais.
Donc déjà, au niveau du paysage, ça a complètement changé notre paysage. Et c'est hyper agréable de voir des mares. Là, de voir des petits nénuphars en fleurs, de voir des petites utriculaires, c'est des plantes carnivores.
Alors, on va être savant, là, nos odonates, c'est-à-dire qu'on voit des libellules un peu partout.
Ouais, tu les vois, elles pondent là. Là, en fait, le mâle garde la femelle et s'assure qu'elle pond bien de sa propre semence.
On m'a commandé un livre sur les libellules. J'écris le texte, je me charge des photos. Catherine fait les dessins et les graphiques. Je vais faire construire une mare artificielle dans les jardins. Et un jour, peut-être, j'y reviendrai à la littérature avec un roman d'amour dont les personnages seraient des insectes.
Et là, c'est des sympétrums. Des sympétrums striolés. Et donc, il y a, évidemment, parce qu'il y a 15 nouvelles mares, mais du coup, ça nous mène à 21 mares sur la partie historique de la ferme, les 17 hectares. Donc, c'est une densité de mares rarement égalé en milieu agricole. Hein.
Ouais, mais les avantages, on va dire.
Les avantages, c'est qu'il y a énormément de libellules et que les libellules, c'est un grand prédateur parmi les insectes. Et donc, on a multiplié la densité de libellules par 5 ou peut-être même 10 par rapport à ce qu'il y avait encore avant. Au cours des 3 dernières années, on a multiplié par 5. Et il y a une diversité aussi étonnante. Il y a plus de 40 espèces de libellules. On a presque la moitié des espèces de libellules de France sur la ferme.
Que je vais vous dire, oui. Je pensais qu'il y avait une centaine à peu près, mais c'est à peu près ça.
Ah oui.
Rien que là, d'accord.
Et il faut le noter aussi, hein, ces mares ont pu être effectuées parce qu'il y a eu un financement donc, et une aide de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Alors restez avec nous, parce que nous avons des oiseaux, bon ça vole pas très bien une poule, mais qui nous attendent, parce que dans ce système, c'est drôlement important. Voilà, allez, un peu de musique.
Il y a le gris et les vautours et puis le lierre autour. J'ai grandi, il y a des merles dans la courrière, perles sur tes joues, c'est la saison des pluies. Je voudrais revoir le grand chêne et la maison. Thank you.
La maison, c'était Laura Kahner. Est-ce qu'elle a lu le livre de Maxime Zucca qui vient de sortir chez Albin Michel Jeunesse, qui s'appelle « Écoute les oiseaux des villes, vingt oiseaux donc des villes » chez Albin Michel. Et puis aussi, donc ça c'est un plus, c'est un classique qu'il a écrit, c'est « La migration des oiseaux, comprendre les voyageurs du ciel » aux éditions Sud-Ouest. Alors nous poursuivons donc notre voyage, nous sommes à la ferme du Grand Laval, nous sommes à Montélier, nous sommes dans le département de la Drôme, on a cette cathédrale et aussi une cathédrale d'eau qu'est le Vercors. Hein. L'eau circule très très vite et donc arrive en bas, donc on essaye de la retenir, il n'y a donc que toutes ces mares. On est quand même sur un territoire pionnier avec la Biovallée hein, qui n'est pas loin. L'eau, c'est donc la clé de nos vies et là, avec Sébastien Blache, Elsa Gartner et Maxime Zucca, eh bien effectivement, on en voit un peu partout.
Là, on est au milieu des épilobes, des mantes aquatiques, des salicaires, donc ça c'est toute la flore des bords de ruisseaux. Sur le ruisseau, on a un tapis de Véronique aquatique qui sont arrivés cette année, et dessous l'eau, et on la voit quand même qui coule au milieu. C'est un habitat complètement nouveau sur la ferme, parce qu'en fait avant il était souterrain, et d'ailleurs c'était donc pas un habitat.
C'était busé quoi, on va
c'était
dire.
Busé. C'était ouais. Des buses, c'était pas utile sur la ferme, et du coup les anciens l'avaient enterré, et là on l'a fait réouvrir à la faveur de l'intervention de l'agglomération de Romans, Valence-Romans, oui. Qui a creusé les mares sur la ferme dans le cadre d'un financement agence de l'eau. Comme les machines étaient là, on en a profité, parce que là pour le coup on pouvait pas le faire avec nos bras. Et une fois réouvert, ce fossé ruisseau est devenu au début un filet d'eau qui donnait... On ne savait pas trop ce que ça allait devenir. Et sur l'idée de Baptiste Morisot, on a essayé d'imiter l'action des castors en recréant des ouvrages castors mimétiques, donc en quelques mots, des branches de bois en travers de la rivière, mais avec du mortier qui était la terre, et des feuilles aussi de saule ou d'autres ou d'herbes, pour rehausser le niveau de l'eau, pour élargir le lit de ce petit ruisseau, et ça a marché.
Le castor est capable de transporter sous l'eau d'énormes cargaisons sur des centaines de mètres. Entre ses molaires et ses incisives se situe un large espace, le diastème, qui lui permet de caler des tiges et gros morceaux de bois. Une fois adulte, il aura bien besoin de cet outil pour aménager son territoire.
Et là, en fait, maintenant, on a un ruisseau qui fait 3-4 mètres de large, qui fait parfois 80 cm, 1 mètre de fond par endroit, qui permet du coup de se reconnecter avec la prairie humide qui est juste à côté.
Oui.
Et ça fait du coup une vaste zone humide qui fait pas loin d'un hectare
hein,
en tout.
Et alors, on a vu passer un martin pêcheur, là, coup de chance, hein, il n'était pas à côté, mais enfin, hop, donc ça m'intéresse. Hein.
Le martin pêcheur, lui, il s'en régale, il vient, il a quelques petits postes de pêche ici, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi... Les oiseaux qui viennent boire, les hérons, les aigrettes, le héron bureau qui vient régulièrement. On a l'an dernier la cigogne noire qui a fait une escale le long de ce petit ruisseau.
Ouais, tout ça est assez rare. Hein, donc, En fait, depuis le début de cette émission, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais il est là en filigrane, c'est le mot réversibilité.
Quand Sébastien a repris la ferme en 2006, il avait fait un suivi des oiseaux et il y avait 66 couples d'oiseaux nicheurs sur la partie historique, donc c'est 17 hectares. Maintenant, la ferme s'est agrandie, mais si on compare que ces 17 hectares, là où il y avait 66 couples de 32 espèces, eh bien, depuis 3 ans, on est à 160 couples pour 48 espèces. Donc ça revient assez vite. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont en plus beaucoup des espèces qui sont celles qui déclinent le plus dans les zones agricoles en France, qui ici reviennent le plus vite. Donc on voit qu'en fait, dès qu'on relâche la pression, dès qu'on laisse de l'espace, dès qu'on diversifie les habitats, tout peut revenir très vite. Donc ça ne veut pas dire que, attention, il ne faut pas s'inquiéter, en fait tout va bien. Ça veut juste dire que si on diminue les pressions, et il faut le faire avant que ça disparaisse pour le coup, ça peut aller beaucoup plus vite. Et c'est une petite chance qu'on a, on va dire, les spécialistes de la biodiversité par rapport aux spécialistes du climat qui travaillent dessus, c'est que le temps de retour...
Là, il est bon, il est positif, parce que le temps de retour du climat, années, c'est vrai qu'on se dit, avec l'inertie du système...
C'est ça qui est décourageant avec le climat, c'est que c'est un siècle, 2 siècles, 3 siècles avant de voir vraiment les résultats des efforts qu'on met en œuvre aujourd'hui. Ouais. Pour la biodiversité, ça peut aller très vite, si on n'a pas tout éradiqué autour, parce qu'il faut quand même qu'ils arrivent à se déplacer, les animaux.
Ah, alors là, on arrive dans le verger. Alors, racontez-nous, parce que... En fait, il y a quoi ? Il y a un paquet de peut-être une dizaine d'années. C'était quoi, des champs de maïs ici ?
Toute mon enfance, j'ai vu que des maïs ici.
Et là, aujourd'hui, on est dans le verger, donc le verger qui a 20 ans maintenant. Et là, on est dans les alignements de figuiers, multi-espèces, donc figuiers, pommiers, pêchers, poiriers, abricots, prunes, kakis. Il y a à peu près tous les fruits qu'on peut cultiver ici. Deux à chaque fois, une quinzaine, vingtaine de variétés par espèce cultivée. Et ça nous a permis de faire quelque chose quand même qui est assez extraordinaire, c'est de lâcher tous les produits, même utilisables en bio, pour bioréguler les insectes, les champignons, à l'exception du cuivre surpêché. Tout le reste a été abandonné depuis plusieurs dizaines d'années et ça fonctionne très bien.
Donc l'équilibre se fait, quoi.
Et ben c'est ça le truc, ouais. C'est, on a pu l'expérimenter, l'équilibre se fait, on a bien des fruits parasités, ça nous arrive, hein, on va pas dire le contraire, hein. Des pommes piquées, mais on a suffisamment de pommes saines, on a suffisamment de figues en bon état pour être capable de vivre de la vente de nos fruits.
Maxime Zouka, que nous apprend ce verger ?
Nous, ce qui nous a marqué beaucoup, c'est parfois on fait des sessions d'observation de la nuit, des papillons de nuit. Là, on a fait une nuit à 160 espèces de papillons de nuit, par exemple. Donc, ce que nous apprend...
Les mésanges font le boulot, j'imagine.
Et en plus, il y a plein de mésanges. On enregistre les chauves-souris dans le verger. Il y a une densité extraordinaire de miniopters, de rhinolophes, de pipistrelles, évidemment.
C'est la poule aux odeurs.
Hein. Elsa Gartner, on arrive vraiment dans votre domaine. Hein. Oui, mais oui, vous les entendez.
Alors, je vais couper l'électricité.
Nos poules.
Parce que nos poules, on les protège avec une clôture électrique, puisqu'on a du renard de partout sur la ferme. On l'a pris en photo 1000 fois sur les pièges photos.
Alors, leur travail ici, au-delà de pondre des œufs, mais quel est-il ?
Leur travail, eh ben, on voit bien là, entre l'intérieur de la clôture et l'extérieur de la clôture, la différence de végétation au sol.
Exact.
Donc en fait, elles ont le premier objectif en ayant des poules, et là on entend un dindon.
Un dindon, ok.
C'est de maintenir une végétation un peu plus basse et de nous éviter de passer le broyeur trop souvent. Alors on le fait quand même, hein, parce qu'elles ne mangent pas tout, elles laissent quand même des hautes tiges. Et de temps en temps, si on doit aller ramasser des fruits, nous on a aussi envie de pouvoir marcher tranquillement. Donc on passe de temps en temps le broyeur ou la débroussailleuse.
Et donc, il y a la fameuse roulotte, parce
voilà.
Qu'en fait, elle circule.
C'est ça. Alors, le fait d'avoir une roulotte, ça a plusieurs fonctions. Mais la principale, donc, c'est de les déplacer. Et donc, de les déplacer, ça amène plein d'avantages. Ça amène au fait qu'elles vont aller désherber plusieurs endroits du verger, que l'impact au sol, il est réduit. On ne va pas avoir... En fait, si on met 70 poules sur cet espace-là constamment, au bout de quelques mois, il n'y a plus du tout de végétation.
Ah oui.
Ce qu'on cherche à faire, surtout avec les poules, c'est que les poules, elles vont manger et puis elles vont déposer des petites fientes de partout. Donc elles vont fertiliser les arbres et elles vont fertiliser les arbres fruitiers. Donc ça, c'est un des rôles les plus importants. Et ensuite, elles vont aller manger les fruits qui tombent au sol. Donc ça, ça les nourrit et en plus, ça nettoie les potentiels parasites qui peuvent être au sol. Et enfin, le fait d'avoir des poules en poulailler mobile, quand on est dans des poulaillers fixes, on a une grosse partie des pathologies des poules qui sont liées au parasitisme. De les mettre en poulailler mobile, on se dédouane de, pas complètement, mais en grosse partie.
Une grande partie des parasites.
Des parasites intestinaux. Et nous, on a des poules qui sont beaucoup, beaucoup à l'air libre parce que l'environnement, là, ce qu'on voit, c'est... Il y a une dizaine de pêchers, il y a un buisson de cornouillers, là-bas il y a un orme. Et en fait, elles se mettent à l'abri, elles aiment bien ces espèces de petits bosquets. Donc elles sont principalement dehors. Moi, si je rentre dans le poulailler, là, il n'y a pas une poule dedans. Dans les bâtiments industriels, en général, la grosse problématique, c'est des maladies respiratoires. Parce que poussière, atmosphère confinée. Et nous, on a zéro maladie respiratoire. Donc en fait, c'est tout bénef, ce système de déplacer régulièrement les poulaillers. On fait ça tous les mois, à peu près. Et il y a une vraie satisfaction à les voir crapahuter comme ça, à les voir dans un milieu qui leur est naturel, en fait, parce que la poule, c'est un animal de forêt. Donc nous, on essaie de reproduire un peu leur milieu. Et là, si on regarde, elles sont où ? Elles sont à l'ombre des buissons, quoi. Mmh. Elles se perchent. Je pense qu'elles sont bien. Et moi, ça me fait du bien, en fait, de m'occuper de poules qui sont dans un environnement qui est sain pour elles.
Maxime Zouka, que peut-on vous souhaiter ?
Alors, ce qu'on peut se souhaiter collectivement, je pense que c'est que ce genre de ferme, évidemment, se multiplie, chacun à sa manière, et que tous les jeunes qui hésitent à s'installer en paysannerie, parce que c'est difficile, se disent qu'en fait, si en plus ils sont paysans et naturalistes, c'est un grand mot, mais tout le monde peut être naturaliste, dès qu'on regarde la nature, on peut être naturaliste. Et que se faire ce double objectif, une vraie profession riche, qui envoie vraiment du rêve pour le coup, qui est difficile parce qu'il faut beaucoup de savoir-faire. Mais elle envoie du rêve et du coup, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait des vocations qui naissent par milliers pour changer en bien le visage de l'agriculture française.
Pareil, même question.
Moi, j'adorerais voir des petites fermes à taille humaine, parce que je pense qu'il y a vraiment une question d'échelle, se multiplier autour de chez nous, se multiplier dans toute la France, comme elle existe dans le monde entier, en fait, ces petites fermes qui ont une partie de subsistance aussi, et qu'il y ait des vraies décisions politiques qui amènent à ce type d'agriculture.
Ben moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'être encore émerveillé par des espèces dont je ne sais absolument pas ce qui va venir. Quoi. Donc, le champ des possibles sont ouverts. On attend. L'année dernière, c'était la marouette, cette année.
Au revoir, Sébastien.
Allez, au revoir, Denis, et à bientôt.
Alors, on sent bien que le coq avait très envie d'être interviewé également. Et puis, alors, vous avez aussi un truc assez étonnant, ce sont les mâts d'hospitalité. Qu'est-ce que c'est ? Ben, ça fait 7-8 mètres de haut, ça mime un gros chêne. Et là, vous avez différents étages pour les faucons, les chouettes, les chauves-souris et les cigognes qui aussi sont revenus. Voilà, donc c'était donc, dans cette ferme du Grand Laval, dans la Drôme, le mariage entre productivité agricole et multiplication du vivant. Donc, c'est ça, soyons contagieux avec ce type d'idées. Grand merci à Sarah Quillens, Stéphane Caberlon qui m'ont hébergé à ici Dromardèche, on les salue. À Camille Blanès, notre assistante. Thierry Dupin a choisi les disques. Et Maria Pasquet. Maria Pasquet, cette semaine, qui a formidablement réalisé et colorisé donc cette émission. La semaine prochaine, on va se retrouver sur l'archipel des Glénans. Ah oui, on change. On va prendre des bottes, on va prendre un gilet de sauvetage quand même pour arriver jusque là-bas. Donc, il y a une réserve naturelle aussi de toute beauté. On va partir donc au Glénans. Et puis on se retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky. Avec ou sans œufs au chocolat, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de Pâques.